Voici un enseignement donné dans le cadre de l'église réformée baptiste de Neuchâtel. Avant d'entendre cet enseignement, vous entendrez la lecture de textes bibliques, fondement infaillible de ce qui sera ensuite partagé, avec l'humble désir que cela soit profitable dans la main de Dieu pour celui qui l'écoute.
Nous voulons chanter gloire au Seigneur et gloire au Seigneur aussi parce que nous allons pouvoir lire sa parole. Alors, le texte principal de la prédication sera dans l'évangile de Marc, au chapitre 12, des versets 28 à 34. Un des scribes qui les avait entendus discuter et voyait que Jésus avait bien répondu s'approcha de lui et lui demanda « Quel est le premier de tous les commandements ?» Jésus répondit « Voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu, le Seigneur est un, et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Voici le second, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. » Le scribe lui dit « Bien maître, tu as dit avec vérité que Dieu est unique et qu'il n'y en a pas d'autre que lui, et que l'aimer de tout son cœur, de toute son intelligence et de toute sa force, ainsi qu'aimer son prochain comme soi-même, c'est plus que tous les holocaustes et tous les sacrifices. » Jésus, voyant qu'il avait répondu avec intelligence, lui dit « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. » Et personne n'osa plus lui poser de questions. Ensuite, trois textes complémentaires. Le premier dans l'Ancien Testament, dans Deutéronome, au chapitre 6, des versets 1 à 5. « Voici le commandement, les prescriptions et les ordonnances que l'Éternel, votre Dieu, a commandé de vous enseigner, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dans lequel vous allez passer pour en prendre possession. Afin que tu le craignes, l'Éternel, ton Dieu, en observant tous les jours de ta vie, toi, ton fils et le fils de ton fils, toutes ces prescriptions et tous ces commandements que je te donne, afin que tes jours soient prolongés. Tu les écouteras donc, Israël, et tu les observeras pour les mettre en pratique, afin que tu sois heureux et que vous multipliez beaucoup, comme te l'a dit l'Éternel, le Dieu de tes pères, dans un pays découlant de lait et de miel. Écoute, Israël, l'Éternel notre Dieu, l'Éternel est un. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. » Ensuite, en Lévitique, au chapitre 19, le verset 18, « Tu ne vengeras pas et tu ne garderas pas rancune envers les fils de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, je suis l'Éternel. » Et enfin, nous revenons dans l'Évangile, dans les Évangiles, dans l'Évangile de Luc, au chapitre 10, des versets 25 à 37. « Et voici qu'un docteur de la loi se leva et lui dit, pour le mettre à l'épreuve, « Maître, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Qu'est-il écrit dans la loi ? Qui lis-tu ? » Il répondit, « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » « Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela et tu vivras. » Mais lui voulut se justifier et dit à Jésus, « Et qui est mon prochain ?» Jésus reprit la parole et dit, « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le rouèrent de coups et s'en allèrent en le laissant à demi-mort. Par hasard, un sacrificateur descendait le même chemin. Il vit cet homme et passa outre. Un lévite arriva de même à cet endroit. Il le vit et passa outre. Mais un samaritain qui voyageait arriva près de lui, le vit et en eut compassion. Il s'approcha, banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis il le plaça sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il sortit deux deniers, les donna à l'hôtelier et dit « Prends soin de lui, et ce que tu dépenseras en plus, je te le paierai moi-même à mon retour. Lequel de ces trois te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands ?» Il répondit « C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui. » Et Jésus lui dit « Va, et toi fais de même. »
Bonjour à chacun, c'est vrai que c'est le dernier dimanche du mois, donc il n'y a pas d'école du dimanche, mais il y a la garderie pour les plus petits. Nous pouvons prier pour eux et pour ceux qui s'en occupent. Voilà, quelle joie d'ouvrir la parole de Dieu ensemble aujourd'hui. Il me semble que des personnes l'ont prouvé, il n'est pas possible de vivre sans amour. Comme il n'est pas possible de comprendre la Bible sans l'éclairage du Saint-Esprit, sur qui nous comptons encore aujourd'hui et que nous aimons tendrement. Alors l'évangile de Marc nous conduit actuellement dans les derniers dimanches du mois et nous sommes reconnaissants de cheminer avec Jésus-Christ qui par sa vie et ses paroles nous enseigne encore en 2022. Et aujourd'hui, nous allons toucher à un point essentiel, à ce qui nous fait avancer, à la motivation de notre existence, au moteur de nos vies. Peut-être vous souvenez-vous, si vous avez entendu les prédications précédentes ou si vous avez lu le texte de Marc, que nous sommes avec Jésus le mardi de la dernière semaine de sa vie ici-bas. Après être entré à Jérusalem de manière triomphante devant le peuple, il fait de l'ordre dans le temple et voilà maintenant face aux responsables du peuple qui n'apprécient pas son action de purification. Les pharisiens, on peut dire l'aile droite des autorités, sont venus lui poser une question pour le faire arrêter par les Romains. Mais leur question a permis au divin maître de donner un enseignement sur l'attitude à avoir face aux autorités. Et peut-être vous souvenez-vous de « il faut rendre à Dieu ce qui est à Dieu » et qui est encore le fondement aujourd'hui de notre attitude face à toute autorité. Les Sadducéens, on peut dire l'aile gauche des autorités, sont venus lui poser une question pour ridiculiser sa croyance. Mais leur question a permis au divin maître de donner un enseignement sur la compréhension des Écritures, la puissance de Dieu et la vie. Et aujourd'hui, c'est un individu qui vient poser une question à Jésus. Une personne qui a beaucoup étudié la loi et qui désire une réponse du maître. C'est vrai que l'évangile selon Matthieu indique que cette question semblait utile aux pharisiens pour piéger Jésus. Mais Marc ici ne parle pas de piège. Je vous invite à avoir vos Bibles ouvertes dans Marc 12, puisque c'est là que nous allons nous concentrer aujourd'hui. Marc ne parle pas de piège, il se concentre sur la personne qui pose la question. Et cette personne fait quatre actions qui indiquent que ce scribe pose une question avec un intérêt réel de recevoir une réponse. Voici les quatre actions. La première, vous pouvez regarder avec moi, c'est le verset 28 de Marc 12 qui nous donne les réponses. Il a écouté Jésus. Première action. Deuxième action, il a vu que Jésus a bien répondu. Il reconnaît la sagesse de Jésus. C'est vrai que les pharisiens étaient en opposition aux sadducéens et que quand Jésus répond bien aux sadducéens, ça leur fait plaisir, c'est vrai. Mais je pense qu'il y a plus que ça. Il a vu qu'il a bien répondu. Troisièmement, il s'approche de Jésus. Et quatrièmement, il demande une chose qui lui tient à cœur. Quel est le premier de tous les commandements? Quel est le premier de tous les commandements? Or, il ne s'agit pas de retourner dans l'histoire et suivre chronologiquement pour trouver le premier commandement entendu dans l'histoire. Le premier commandement que connu de Dieu, d'ailleurs, vous le savez sûrement. On va dans Genèse, premier chapitre, et le premier commandement que l'on voit, c'est « Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut ». Voilà, si on va chronologiquement. Ou bien, si on regarde le premier commandement adressé à l'homme, c'est dans Genèse 1, 28, où il est dit « Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la. Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui rampe sur la terre. » Mais la question du scribe n'était pas de trouver le premier commandement chronologiquement. Mais en fait, le premier au niveau de l'importance, de la priorité. Donc la question du scribe n'était pas de trouver quel était le premier commandement chronologiquement, mais le premier au niveau de l'importance, de la priorité. Celui qui était au-dessus de tous les autres. Le commandement que l'on pouvait lire le soir avant de s'endormir pour se réveiller le matin avec cette pensée et vivre toute la journée en disant « Je vis selon ce que Dieu veut ». Et il le donne, en fait, ici, quelque part, le moteur de nos vies. Le moteur de nos vies. Jésus, le divin maître, va utiliser cette occasion pour nous donner un fondement, le moteur de nos vies, qui nous évitera autant le légalisme que le libertinage. Il donne ici le moteur de nos vies qui est encore actuel. Écoute, Israël, le Seigneur notre Dieu, le Seigneur est un. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Tu aimera. Voilà le moteur de nos vies. Encore faut-il savoir comment et qui aimer. Et c'est ce que nous allons chercher à comprendre ce matin avec ce texte. Nous aurons donc trois parties. La première, c'est qui aimer en premier et comment. On pourrait dire que c'est la dimension verticale. Ensuite, qui aimer ensuite et comment. La dimension horizontale. Et troisièmement, et dans le royaume de Dieu, nous verrons la troisième dimension. Donc premièrement, aimer Dieu en premier et comment. Donc relisons le texte pour bien l'avoir en tête, Marc 12, les versets 28 à 30. Je vous invite à suivre dans vos Bibles. Marc 12, verset 28. Un des scribes qui les avait entendus discuter et voyait que Jésus avait bien répondu, s'approcha et lui demanda, « Quel est le premier de tous les commandements ?» Jésus répondit, « Voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur, notre Dieu, le Seigneur est un, et tu aimeras le Seigneur Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Voici le second. » Ça sera pour le deuxième point. On s'arrête ici pour le premier point. « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. » Or, qu'est-ce que le scribe attendait lorsqu'il a posé cette question? Nous ne le savons pas vraiment. Peut-être était-ce une forme extérieure de cérémonie à observer. Peut-être. Peut-être que aussi il attendait une parole de Jésus semblable à celle qu'il a entendue. Parce qu'en fait, à cette époque, nous savons que c'était un peu un sport de théologie intellectuelle de chercher le plus grand commandement. Il y a quelques exemples, je vous en donne deux. Par exemple, l'un d'eux qui s'appelle Rabbi Samlaï disait « Moïse nous a donné 613 commandements au Sinaï, 613 commandements positifs au Sinaï. David en a donné 11 dans le psaume 15. Ésaïe en a donné 6 dans Ésaïe 33, 15. Michée en a donné 3 en Michée 6, 8. Et Ésaïe en a donné 2 en Ésaïe 56, 1. Et Habacouc en a donné 1 en Habacouc 2, 4, qui dit « Le juste vivra par la foi ». Voilà, ça c'était le cheminement du Rabbi Samlaï. Un autre exemple est celui de Hillel, un rabbin très connu, d'ailleurs une école de Hillel, on en a déjà parlé ensemble une fois. Et lorsqu'un païen lui demande de résumer la loi, voici ce qu'il répond. « Ce que tu n'aimes pas que l'on te fasse, ne le fais pas à ton prochain. C'est toute la loi, le reste n'est que commentaire. Va et apprends cela. » Ça c'était la parole de Hillel. Jésus l'a amené de manière positive. On le sait, on le verra dans quelques instants. Mais Jésus va aider à recentrer l'attention en premier sur Dieu. En fait, Jésus recentre l'attention sur Dieu. Et c'est un excellent réflexe, car Dieu est la source de l'amour. Jésus va aider ici à recentrer l'attention en premier sur Dieu. Il a dit, voici le premier commandement, c'est Dieu. Et c'est un excellent réflexe, car Dieu est la source de l'amour, comme cela est dit dans 1 Jean 4, les versets 16 à 19, que je vais vous lire, qui dit ceci. « Et nous avons connu l'amour de Dieu, l'amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. Dieu est amour. » Dieu est amour, mais l'amour n'est pas Dieu, faut pas inverser. Donc je continue dans 1 Jean 4, 16. « Dieu est amour. Celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. » Voici comment l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Tel il est lui, tel nous sommes aussi dans ce monde. Il n'y a pas de crainte dans l'amour. Mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte implique un châtiment, et celui qui craint n'est point parfait dans l'amour. Pour nous, nous aimons parce que lui nous a aimés le premier. Dieu est la source de l'amour. C'est celui qui nous donne la vie, l'unique Dieu qui existe, celui qui pourvoit à nos besoins, celui que nous pouvons aimer sans craindre d'un mauvais tour de sa part. Aimer notre Dieu créateur. Après avoir compris qui aimer, comment aimer, Jésus l'explique clairement. Nous voyons d'ailleurs que cette première façon d'aimer n'est pas identique au second commandement. La façon d'aimer Dieu ou son prochain ici n'est pas expliquée de la même manière. Il y a en fait une exclusivité, une totalité, une intégralité, une plénitude dans l'amour envers Dieu. Afin de bien souligner cela, Jésus indique quatre aspects dans Marc. Le cœur, l'âme, la pensée, la force. En disant chaque fois tout. De toute ton âme, de toute ta force. Aimer Dieu de tout son cœur. Premier élément qu'il souligne. Le cœur est le siège des sentiments, de la volonté et de l'intelligence. Quand on parle de cœur, c'est ces trois choses qui doivent vous venir en tête. Parce que dans la Bible, c'est ces trois choses. Quand on parle de cœur, ce n'est pas juste le sentiment. Ça, c'est une pensée actuelle. La pensée biblique, c'est le siège des sentiments, de la volonté et de l'intelligence. Cela signifie tous nos sentiments, toute notre volonté, toute notre intelligence sont utilisés pour aimer Dieu. Deuxièmement, aimer de toute son âme. L'âme est le souffle de vie que Dieu a insufflé à Adam. Cela signifie que tout ce qui vit en nous est utilisé pour aimer Dieu. Et cela jusqu'à notre dernier souffle. Aimer Dieu de toute son âme. Troisièmement, aimer Dieu de toute sa pensée. La pensée est ce qui nous habite, nos réflexions, nos réactions, nos dialogues intérieurs. Peut-être même que vous discutez dans votre tête actuellement. Cela signifie que tout ce qui se passe dans notre tête est utilisé pour aimer Dieu et manifester notre amour pour lui. Et quatrièmement, aimer Dieu de toute sa force. La force, c'est toutes nos capacités. Ce que nous arrivons à faire dans tous les domaines, cela signifie que l'amour pour Dieu fait partie de toutes nos actions. En fait, il n'y a rien dans la Bible de plus fort, de plus profond, de plus souligné que l'amour que nous sommes appelés à manifester à Dieu. Vous verrez nulle part écrit « Tu aimeras ton prochain de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force ». Il n'est même pas dit « Tu aimeras ton époux, ton épouse, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force ». Mais il est écrit « Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée ». Et de toute sa force. C'est en même temps fabuleux, et en même temps cela nous met face à un besoin de pardon. Parce que qui parmi nous aime Dieu de cette manière, vraiment? C'est en même temps un but qui est toujours devant nous, qui nous pousse dans une direction claire, et en même temps un aiguillon qui nous pousse à venir vers le seul qui peut nous pardonner de ne pas le vivre. Jésus-Christ a parfaitement aimé son Père. Et il est mort sur une croix pour nous racheter, pour avoir un pardon à donner, un pardon réel qui annule la dette à tous ceux qui n'ont pas aimé Dieu de tout leur cœur, de toute leur âme, de toute leur pensée et de toute leur force à tout moment. Mais l'amour pour Dieu est fabuleux. C'est de cet amour pour Dieu, que découlera l'amour pour le prochain, qui est une créature de Dieu, et que nous devons aimer comme nous-mêmes. Nous allons en parler dans le deuxième point. C'est de cet amour pour Dieu que découle l'amour pour le frère et la sœur dans la foi, qui est un racheté de Dieu, et que nous devons aimer comme Jésus nous a aimés. Nous en parlerons dans le troisième point. Si nous avons vu qui aimer, comment aimer, j'aimerais vous donner une illustration qui nous aide à comprendre pourquoi aimer. C'est une illustration qui m'a marqué, que j'ai entendue de R.C. Sproul, professeur en théologie. Il raconte ceci. Un jour, il arrive à son cours, il était à son cours de théologie, et puis les personnes entraient dans son cours, donc il y a un jeune homme qui entre avec un grand sourire, ensuite une jeune dame qui arrive avec à son doigt un anneau avec un diamant. Donc ça signifie qu'il y avait un engagement, qu'il y avait des fiançailles. Alors avant de commencer son cours, il demande à la jeune fille « Qui est l'heureux élu ?» Et c'était Jean qui était entré avant elle avec un sourire radieux. Et M. Sproul demande à la fille « Aimes-tu Jean ?» Mais bien entendu. Mais pourquoi aimes-tu Jean ? Ben parce qu'il est intelligent. Et il lui répond, bien, mais Bill fait de bien meilleures notes que Jean.
Pourquoi aimes-tu Jean ? Parce qu'il est athlétique.
C'est bien. C'est vrai que Jean joue dans l'équipe de l'université.
Mais Bill est le meilleur joueur de l'équipe de l'université. Pourquoi aimes-tu Jean ?
Et là, la jeune fille devient très gênée. Et les larmes commencent à monter aux yeux. Il dit, j'aime Jean parce que c'est Jean.
Eh bien, nous y voilà. Nous y sommes. Ce ne sont pas les accomplissements, les capacités, les prouesses qui sont le fondement de l'amour. Mais c'est parce que c'est Jean. Nous aimons Dieu parce que c'est Dieu.
Oui, nous sommes émerveillés par ses capacités, ses réalisations et tous les aspects de sa personne. Le fait qu'il soit parfaitement bon nous rassure, évidemment. Sa toute-puissance nous donne un sentiment de sécurité. La manifestation de son amour en donnant ce qu'il a de plus cher pour nous libérer du péché, de l'esclavage du péché, nous remplit d'admiration et nourrit notre amour. C'est vrai.
Mais nous aimons Dieu parce que c'est Dieu, simplement. Dieu est unique.
C'est la raison pour laquelle Jésus commence par rappeler le schéma ici. Hein. Écoute Israël, le Seigneur, notre Dieu, le Seigneur est un.
Il est unique. C'est pour cette raison que nous l'aimons.
Et pour appliquer cela à notre vie, nous pouvons nous poser la question,
comment aimons-nous Dieu ? Ou pourquoi aimons-nous Dieu ?
Comment cela se voit-il ? Comment cela se voit-il que nous aimons Dieu ? J'ai été marqué par un film dernièrement, et cette question vient un petit peu de ce film qui dit ceci. Y aurait-il assez de preuves pour qu'un juge nous condamne d'aimer Dieu ? Trouver assez de preuves dans notre vie pour dire oui ?
Bien sûr, c'est une histoire fictive hein, de condamner pour aimer Dieu.
Mais voilà, quelqu'un qui déteste Dieu, qui veut vous condamner parce que vous aimez Dieu, aurait-il assez de preuves ?
Ce premier commandement d'aimer Dieu est toujours lié au deuxième.
Et Jean le souligne dans sa première épître. Et parfois, le seul fait de mentionner ce deuxième commandement inclut le premier. Vous avez déjà vu dans le Nouveau Testament, il y a des choses qui sont incluses, même si on dit qu'une partie.
Quand on parle de croire, la repentance est avec, ou la repentance, la foi est avec, même si on ne dit pas toujours les deux.
Et ici, ce second commandement n'a pas de sens et de fondement sans le premier. Voici ce que dit Jean dans 1 Jean 4. On a été jusqu'au verset 19 avant, qui disait que nous aimons Dieu parce qu'il nous a aimé le premier. Verset 20,
« Si quelqu'un dit « j'aime Dieu »,«
j'aime Dieu »,
et qu'il haïsse son frère,
c'est un menteur.
Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit ne peut aimer Dieu qu'il ne voit pas.
Et nous avons lu, et nous avons de lui ce commandement que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Passons donc au deuxième point, hein, qui aimer ensuite, après ce premier commandement, et comment. Donc relisons le verset 31 du chapitre 12 de Marc. Quand Jésus a parlé du premier commandement, il dit au verset 31 ensuite, « Voici le second, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que ceux-là. »
J'aimerais commencer par une petite parenthèse, mais qui est vraiment très importante. Une chose importante à comprendre, et qui est parfois mal comprise, c'est que le deuxième commandement n'est pas détaché du premier. Il n'est pas question d'un amour, d'un concours d'amour à donner à l'un ou l'autre. Si nous sommes appelés à aimer Dieu plus que tout, cela ne signifie pas que nous devons aimer notre prochain moins. Il n'y a pas de moins dans la réflexion de l'amour. Il n'y a que du plus. Vous ne verrez nulle part qu'il faut aimer des personnes moins que Dieu ou les non-croyants moins que les croyants. Mais vous trouverez qu'il faut aimer le Créateur plus que les créatures. Cela n'implique pas, même si nos logiques nous poussent à penser cela, aimer moins les créatures. Simplement, aimer plus
le Créateur. Donc si je résume cette pensée, nous n'avons jamais à réfléchir comment aimer moins, mais uniquement à comment aimer plus. Nous n'avons jamais à réfléchir comment aimer moins, mais uniquement à comment aimer plus. Je referme la parenthèse, mais elle me semble très importante. Revenons donc à notre deuxième commandement. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Jésus reprend en fait le texte de Lévitique 19-18, comme nous l'avons lu tout à l'heure dans la préparation de la prédication. Et nous trouvons encore à trois autres endroits dans le Nouveau Testament, et j'aimerais vous lire ces textes pour que vous compreniez l'importance de cela. Et c'est l'ordre chronologique probable que je vais vous lire ces textes. Donc vous savez que le Nouveau Testament n'est pas dans l'ordre chronologique de nos Bibles. On a les Évangiles, Actes, ça on n'est pas trop loin de la chronologie, mais ensuite les Épîtres, elles ne sont pas chronologiques. Donc je vais vous lire un premier texte qui est dans Jacques. Jacques a été écrit avant Galates et avant Romains. Ça sera dans les trois livres qu'on va lire ces textes. Donc comme ça l'ordre chronologique. Jacques 2:8 qui dit ceci. « Sans doute, si vous accomplissez la loi royale selon l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même, vous faites bien. Mais si vous vous livrez à des considérations de personnes, vous commettez un péché, vous êtes convaincu de transgression par la loi. » Donc ça c'est Jacques qui prend ce texte de « Tu aimeras ton prochain comme toi-même » qui en donne déjà une application par rapport à la considération de personne. Ensuite dans Galates, Galates 5 verset 13. « Frères, si vous avez été appelés à la liberté, seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair, mais par amour, soyez serviteurs les uns des autres, car toute la loi est accomplie dans une seule parole, celle-ci. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Donc là, on voit une deuxième application déjà dans la notion de la liberté qu'on peut utiliser, qui doit être liée à cet amour pour notre prochain. Troisième texte dans Romains, chapitre 13, verset 8. « Ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres accomplit la loi. En effet, les commandements « Tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas de vol » tu ne rendras pas de faux témoignages, tu ne convoiteras pas. Et tout autre commandement se résume dans cette parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait pas de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Or, qui sommes-nous appelés à aimer dans ce deuxième commandement? Notre prochain. Mais qui est notre prochain? Et Jésus a répondu à cette question lorsqu'un docteur de la loi le lui a posé dans Luc 10, 29. Nous avons lu ce texte avant tout à l'heure. C'était pour cette raison. C'est parce que Jésus répondait à cette question. Qui est mon prochain? Alors souvent, dans cette parabole du bon samaritain, on parle du bon samaritain, enfin, etc., etc. C'est bien. Mais la réponse à la question, c'est qui est mon prochain? Et qu'est-ce que Jésus répond? Jésus il retourne un petit peu les choses pour aider les gens à réfléchir. Il dit que si nous sommes les prochains, donc nous sommes les prochains de ceux qui ont besoin de miséricorde. Voilà ce qu'il dit. Mais si nous sommes les prochains de ceux qui ont besoin de miséricorde, qui sont aussi nos prochains, donc tous ceux que nous côtoyons et de qui nous parlons, avec qui nous parlons. En fait, tous ceux qui sont autour de nous ont besoin de miséricorde. Il n'y a pas d'exception. Maintenant que nous savons qui aimer, comment nous devons aimer notre prochain selon Jésus? C'est écrit dans le texte. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, comme nous-mêmes. Mais qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que cela signifie? Que si je n'aime pas mon apparence, mes défauts, mes incapacités, je ne vais pas non plus aimer les autres sur ces aspects? Non. Ça, c'est une vue romantique que Jésus n'avait pas. Et qui pousse à dire à tort, d'ailleurs, qu'il faut d'abord que je m'aime pour aimer les autres. Alors, j'aimerais vous donner deux pistes pour nous aider à mieux comprendre ce que veut dire aimer notre prochain comme nous-mêmes. Une première piste est en lien avec le premier commandement. Je vous ai dit que le deuxième commandement est lié au premier commandement. Dans le premier, nous avons vu l'amour pour Dieu. Un amour qui nous pousse à aimer ce qu'il aime. Il nous a créés et il nous aime, nous ses créatures. Il donne la vie à ses créatures. Il nous prend soin de nous. Déjà simplement, nous prenons aussi soin de nous-mêmes d'ailleurs. Il prend soin de nous et nous prenons soin de nous-mêmes. Nous mangeons par exemple, en s'habillant, en se lavant, en cherchant à apprendre des choses. Chaque personne vivante, il l'a voulu et il lui donne une valeur immense. Car chaque être humain est créé à l'image de Dieu. Même si la chute a fait de grands dégâts, la valeur reste. Voilà pourquoi d'ailleurs nous sommes appelés à ne pas toucher à la vie. Nous ne pouvons pas la donner, nous ne devons pas l'enlever. Donc l'aspect créationnel nous indique un amour à porter à nous-mêmes qui doit aussi être porté à notre prochain de manière identique. Comme toi-même. Donc l'aspect créationnel nous indique un amour à porter à nous-mêmes qui doit être aussi porté à notre prochain de manière identique. Alors c'est vrai qu'ici le croyant a un avantage. Parce qu'il peut se rendre compte que Dieu l'a tellement aimé qu'il a donné son Fils pour qu'il ait la vie éternelle. Et nous sommes appelés à ne pas nous aimer moins que Dieu nous aime. Et si un croyant me dit qu'il ne s'aime pas, eh bien je l'encourage à se tourner vers celui qui l'a tellement aimé, qu'il a donné sa vie pour lui, et apprendre à aimer comme il nous a aimés. Et aimer ce qu'il aime. Ça c'est la première piste, en revenant au premier commandement qui nous dirige vers Dieu, l'amour de Dieu. Une deuxième piste pour comprendre ce que signifie aimer comme nous-mêmes est en lien avec une parole de Jésus dans Matthieu 7,12. Vous verrez qu'on a déjà vu une parole semblable avec Hillel, cette fois-ci dans Matthieu 7,12. C'est Jésus qui dit « Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, vous aussi faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. » En fait, Jésus nous donne ici une clé pour découvrir combien nous nous aimons. En fait, pour découvrir combien nous nous aimons, pour réfléchir à ce que nous désirons que les autres fassent pour nous. Si vous dites, ouais, ben moi je ne m'aime pas vraiment, enfin je ne sais pas si je m'aime. Eh bien réfléchissez à ce que vous aimeriez que les autres fassent pour vous. Et là vous commencez à comprendre que vous vous aimez quand même pas trop mal. Parce qu'il y a plein de choses que vous aimeriez que les gens fassent pour vous. Donc Jésus indique ici que nous pouvons découvrir combien nous nous aimons en réfléchissant à ce que nous désirons que les autres fassent pour nous, puisqu'il nous encourage à le faire pour eux. Aime ton prochain comme toi-même. Il est aussi possible de se rendre compte en réfléchissant à toutes nos frustrations, ce que l'on aurait aimé que les autres nous fassent pour nous, ou encore toutes les critiques que nous faisons, qui souvent sont en lien avec ce que nous aurions aimé recevoir. Parce qu'en fait, nous nous aimons, même si nous ne le croyons pas. Nous aimons Dieu. Et nous aimons les autres, car Dieu les aime. Il donne la pluie aux justes et aux injustes. Il donne les saisons à tous ceux qui habitent sur la terre. Alors pour appliquer cela à notre vie, une question pourrait nous être posée. Comment aimes-tu ton prochain? Comment aimes-tu ton prochain? Et la question suivante. Comment ton prochain parlerait-il de ton amour pour lui? Comment ton prochain parlerait-il de ton amour pour lui? Nous avons vu les deux commandements que Jésus a donnés en réponse à ce scribe. Le scribe a ensuite répondu à Jésus et Jésus a répondu à sa réponse. Et c'est ce qui va nous intéresser dans notre dernier point. Jésus a parlé une deuxième fois au scribe. La première fois, il a répondu à sa question et la deuxième fois, il lui parle du royaume. Donc c'est un troisième point, la troisième dimension du royaume de Dieu. Donc le scribe donne un avis positif sur la réponse de Jésus. Il reformule la réponse de Jésus en ajoutant que l'amour pour Dieu et le prochain est plus que tous les holocaustes et tous les sacrifices. Ce scribe a compris que les commandements sont d'abord une affaire de cœur. Ce scribe avait l'intelligence de comprendre. Mais qu'en était-il de son cœur ? Relisons les versets 32 à 34 de Marc 12. Le scribe lui dit, « Bien, maître, tu as dit avec vérité que Dieu est unique et qu'il n'y en a pas d'autre que lui, et que l'aimer de tout son cœur, de toute son intelligence, de toute sa force, ainsi qu'aimer son prochain comme soi-même, c'est plus que tous les holocaustes et tous les sacrifices. Jésus, voyant qu'il avait répondu avec intelligence, lui dit « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. » Et personne n'osa plus lui poser de questions. Pour cette dernière phrase, on voit que la sagesse manifestée par Jésus démontre qu'il n'est pas un maître parmi d'autres, mais qu'il est le maître. Et plus personne ne cherche à faire le malin devant lui. L'appréciation positive de Jésus de la réponse du scribe nous le rend sympathique. Vous êtes d'accord ? La réponse positive ou l'appréciation positive de Jésus de la réponse du scribe nous le rend sympathique. Et pourtant, il n'est pas dans le royaume de Dieu. Il n'est pas dans le royaume de Dieu. Il n'est pas loin. Pas loin. Mais il n'y est pas. Et ma prière, c'est que personne ici ce matin n'entende un jour cette phrase « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu » et qu'il en reste là. Être pas loin du royaume de Dieu, c'est pas être dans le royaume de Dieu. Pour être dans le royaume de Dieu, il ne faut pas seulement comprendre intellectuellement ces deux commandements d'amour, mais les vivre et grandir dans la compréhension de tout ce que cela signifie. L'amour pour Dieu découle de son amour pour nous. Comprendre que Dieu a déversé son amour pour nous en donnant son Fils à la croix pour pardonner les péchés desquels nous nous repentons est la plus merveilleuse découverte, la porte d'entrée du royaume de Dieu. Et quand on commence à comprendre que l'on ne vit pas le premier commandement, qu'on s'en repent, nous en sommes pardonnés en Jésus-Christ et nous entrons dans ce royaume. Il ne suffit pas de le savoir, il suffit de chercher à le vivre. Et quand vous le cherchez à le vivre vraiment, vous allez tomber à genoux dire « Seigneur, je te demande pardon. Ben, je ne vis pas ce commandement. Je veux, je désire, pardon. » Et qu'est-ce que Christ nous dit de sa croix, si vous voulez, si on prend l'image ? Je l'ai fait pour toi. Tu es pardonné. Va et ne pêche plus. Et cette découverte extraordinaire de la merveilleuse découverte de l'amour de Dieu, parce qu'en fait, quand on est devant cette croix et qu'on demande pardon, on voit un amour extraordinaire, en fait, puisque rien d'autre n'est demandé. Et cette découverte extraordinaire est l'une des raisons qui pousse certains à aller dire à tout le monde « Dieu t'aime, Jésus t'aime !» Mais je comprends cela. Mais c'est un mauvais raccourci. C'est un mauvais raccourci. Nulle part vous trouverez dans la Bible un exemple d'évangélisation de ce type. Il est plutôt dit « Repentez-vous, ayez foi en Christ !» Et celui qui s'approche humblement de Dieu de cette manière découvrira un amour sans pareil, un amour hors de l'ordinaire, un amour fabuleux qui a fait couler tant de larmes de reconnaissance et de joie. Oui, nous désirons l'amour pour tous ceux qui sont autour de nous, mais annonçons l'évangile comme la parole nous engage à le faire. Oui, je désire que chacun de nous découvre, se rappelle, se nourrisse de l'amour de Dieu qui remplira le moteur de notre vie qui est d'aimer Dieu et notre prochain. Pour remplir notre moteur, le moteur de notre vie, si on veut avancer, c'est aimer Dieu et notre prochain. Pour le remplir, il faut du carburant. Ce carburant, c'est l'amour de Dieu. C'est l'amour de Dieu. Si vous avez de la peine à aimer quelqu'un, ne vous focalisez pas premièrement sur cette personne. Focalisez-vous sur Dieu. Et c'est lui qui vous donnera l'amour pour cette personne. Jésus dira ceci à ses disciples. Et là, on arrive, quelque part, à un troisième commandement. Jean 13, 34. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Aux deux commandements qui résument toute la loi, Jésus en ajoute un nouveau. Souvenez-vous, dans la réflexion de l'amour, il n'y a pas de place pour le moins, mais que pour le plus. Le premier commandement est « aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée, de toute sa force ». Le deuxième est « aimer son prochain comme soi-même ». Et le nouveau, qui est la troisième dimension, qui manifeste le royaume de Dieu. Voilà le lien avec le texte. Le royaume de Dieu est manifesté par l'amour que les disciples ont les uns envers les autres. C'est à ceux-ci qu'ils reconnaissent que vous êtes ses disciples, dans son royaume. Donc le nouveau, qui est la troisième dimension, qui manifeste le royaume de Dieu, c'est aimer les autres disciples comme Jésus nous a aimés. Si le premier est un amour total, le second est un amour identique et le troisième est un amour sacrificiel. C'est en aimant les disciples comme Christ que nous serons reconnus comme ses disciples. Et être un disciple, c'est être dans le royaume. Jésus ne dit pas à ses disciples « Tu n'es pas loin du royaume ». Non, tu fais partie du royaume. Voici une petite illustration, j'ai essayé d'imaginer quelque chose, donc on verra si c'est utile. Mais voici donc un homme qui s'appelle Je sais. Il connaissait tous les mots d'amour qui existent. Il était le roi du poème amoureux. Il savait faire danser le son des phrases de la manière les plus délicieuses. Mais il n'envoyait aucune des lignes à celui qu'il aimait. Celle qu'il attendait, qu'il appréciait. Si proche, et pourtant si loin. Il n'était pas loin du bonheur du mariage, pas loin. Et pourtant, il ne l'a jamais vécu. Mort, un verre d'une beauté ineffable à la bouche, qu'il n'aura jamais prononcé à celle qu'il aimait. Pas loin, pas loin. Pas loin. C'est une phrase qui est très encourageante pour quelqu'un qui est en chemin. C'est plus très loin. Mais c'est terrible pour celui qui ne va pas plus loin. C'est la question la plus importante de notre vie. Es-tu dans le royaume de Dieu ou pas loin? Es-tu dans le royaume de Dieu ou pas loin? Si tu n'es pas loin, que tu comprends tant de choses sur Dieu, mais que tu ne t'es pas repenti pour ton manque d'amour envers lui, que tu ne saisis pas l'œuvre du roi du royaume, si tu n'es pas loin. Et d'ailleurs, même si tu es plus loin, je ne peux que te supplier, viens à Christ. Viens à Christ, ce Dieu d'amour, et repens-toi de ton péché. Crois en Jésus-Christ et tu découvriras un amour que tu n'as jamais connu auparavant. Un amour parfait, tellement bon. Nous arrivons à la conclusion. L'amour pour Dieu est prioritaire et essentiel pour toutes les relations que nous vivons. Nous avons parlé dans les études bibliques il y a quelque temps de la sagesse relationnelle. La sagesse relationnelle qui est basée en fait sur les versets 29 à 31 de Marc 12. Et je vous encourage, ou je nous encourage, je fais partie aussi de l'équipe évidemment, de nous imbiber de cet enseignement. Vous pouvez le retrouver d'ailleurs sur le cloud de l'ERBN, de nous imbiber de cet enseignement qui se base sur ce premier et ce second commandement. Ma prière est que chacun ici comprenne quel est le moteur de notre vie. Quel est le moteur de votre vie? Si je viens après le culte, je vous demande quel est le moteur de votre vie. Vous avez la réponse, j'espère, maintenant. C'est d'aimer Dieu. Aimer Dieu. Et quel est le carburant du moteur de nos vies? Ce précieux carburant est l'amour de Dieu, Père, Fils, Saint-Esprit. Et j'aimerais terminer par nous poser une question. Enfin, non, c'en est deux. C'est toujours la même chose, on dit une et puis il y en a deux. Quel est le plus grand commandement que tu vis dans ta vie? Quel est le plus grand commandement que tu vis dans ta vie? Et deuxième question qui est liée, vous avez déjà vu, ça c'est très, j'en ai fait déjà plusieurs fois aujourd'hui. Si quelqu'un observait ta vie, quel commandement dirait-il que tu vis? Si quelqu'un observait ta vie, quel commandement dirait-il que tu vis? Nous allons prier. Éternel notre Dieu, nous sommes ébahis par ta parole. Si quelqu'un était venu vers nous poser la question, quel est le plus grand commandement? Nous aurions commencé à transpirer. Que répondre? Mais nous n'avons plus à transpirer parce que notre divin maître a donné la réponse. Merci, Père, pour ces controverses qui sont arrivées dans l'histoire. Dans ton histoire, dans l'histoire où Jésus-Christ sur terre a répondu aux questions des hommes qui étaient autour de lui. Quelle grâce d'avoir ces réponses. Oh oui, Seigneur, merci pour cette grâce de comprendre que ce qui résume tous les commandements, ce n'est pas « tu dois faire, tu ne dois pas faire ». Non. C'est aimer Dieu. Quelle grâce d'aimer ce Dieu unique, de t'aimer. Toi qui es parfait, toi qui jamais ne nous fera du mal, toi qui, c'est vrai, nous fait grandir, progresser, et qui sait que la souffrance fait partie de ce monde dans lequel nous passons parfois pour nous faire progresser. Mais tu es ce Dieu qui veut toujours notre bien à long terme, notre bien éternel. J'aimerais te prier, ô notre Dieu, que notre amour pour toi soit décuplé, de telle manière que cet amour déborde sur toutes les relations que nous avons. Que cet amour déborde même sur le regard que nous avons sur nous-mêmes. Afin que, Seigneur, nous ne cherchions pas en nous-mêmes des choses pour lesquelles nous pourrions être fiers, nous enorgueillir, mais que nous découvrions que tu es toi-même dans nos vies. Et que tout vient de toi. Qu'avons-nous que nous n'ayons reçu? Nous ne voulons pas nous en glorifier, nous voulons te rendre gloire. Et te dire merci parce que tu nous as fait tels que nous sommes, parce que c'est tel que tu le veux. J'aimerais te prier, Seigneur, pour tous ceux qui ne sont pas réconciliés avec qui tu veux qu'ils soient. Que chacun, Seigneur, puisse venir puiser à cet amour infini. Merci pour cette parole qui nous dit clairement que nous pouvons aimer parce que tu nous as aimés le premier. Oh Seigneur, que ta grâce coule dans nos cœurs, que ton amour se déverse d'une manière toute particulière dans cette semaine, que nous puissions la vivre les uns envers les autres. Tu es un Dieu unique et tu as mis des personnes uniques autour de nous. Sois loué, sois béni pour l'amour que nous pouvons donner et pour l'amour que nous pouvons recevoir et que nous avons déjà reçu de toi et de tous ceux qui sont autour de nous. Dans le beau nom de Jésus-Christ. Amen.
L'enseignement est maintenant terminé. Si vous désirez profiter d'autres ressources de l'Église réformée baptiste de Neuchâtel, n'hésitez pas à visiter le site www.erbn.ch. Que l'Éternel vous bénisse dans sa grâce.